Et de mon côté, je voulais vous dire.
Donc, pour introduire cette soirée, très rapidement, la gestalt-thérapie, c'est un terme. J'ai l'impression qu'à l'ethnocafé, il y a des mots qui flottent comme ça. Il y a un côté un peu. À force de solliciter la magie, le lieu devient magique et il y a des mots qui sont là à vouloir qu'on les nomme, à se dire. Donc, il y a le mot réciprocité, il y a le mot amour, dont on a parlé avec Jean-Pierre Siméon la fois passée. Et la gestalt, c'est un mot aussi qui tourne autour et notamment qui est apparu au contact de, parce qu'on a parlé de, on travaille la poésie, mais on travaille beaucoup aussi la philosophie, notamment la phénoménologie et notamment la phénoménologie de Maurice Merleau-Ponty. Et j'ai l'impression que ça en tout cas, en étudiant, en nous intéressant à Merleau-Ponty, on sent que le mot gestalt arrive derrière, et en tout cas, ça a l'air d'avoir un lien avec cette philosophie. Et comme l'idée, c'est comment on peut mettre, enfin, le travail de l'ethnocafé, c'est comment ce que nous apprend Merleau-Ponty peut être utilisé dans le soin. Voilà, on a l'impression qu'il y a quelque chose de très proche entre le soin poétique qu'on essaie de mettre au travail et la gestalt-thérapie, en sachant qu'évidemment, encore maintenant, c'est un mot pour moi un peu mystérieux. Pour le coup, c'est mystérieux puisque ça, c'est pas très parlant, puisque c'est pas un mot français. Et du coup, voilà, ce soir, on aimerait peut-être aller dans le mystère et mieux comprendre. Voilà. Et du coup, on vous a invité, Valérie, Adriana, Trina. Merci d'avoir accepté. Et donc, voilà, effectivement, vous êtes gestalt-thérapeute. Vous êtes formatrice au Greffort.
Et savoir psy. Je ne suis plus formatrice au Greffort. Je commence à réduire mon activité.
D'accord, ok. Peut-être pour nous dire juste un mot sur cet institut.
Le Greffort ?
Ouais.
C'est un institut qui forme des gestalt-thérapeutes, savoir psy à Paris aussi. Le Greffort s'inscrit plutôt dans une posture de chant, et là j'imagine que déjà je jargonne un peu. Ça deviendra, j'espère, plus clair au fil de cette soirée. Savoir psy est plus dans une approche intégrative.
D'accord. Ok.
Donc, on verra que la gestalt-thérapie regroupe bien des courants différents. Mmh. Et on peut aller voir des gestalt-thérapeutes qui du coup ne travaillent pas du tout de la même façon. Mmh. Donc ce soir, je vais vous parler du courant, du champ et de la phénoménologie.
D'accord.
C'est pour ça que vous m'avez invité. Exactement. Ça tombe bien.
J'ai vu que vous avez été membre aussi d'une commission éthique et déontologie. Collège européen de gestalt-thérapie.
Oui, il y a des institutions, des formes de fédérations professionnelles, et chacune est dotée d'une commission éthique et déontologie. C'est un peu le tiers, la commission qui fait tiers avec les patients.
D'accord. Bah, écoutez, je vous laisse la parole.
Ok. Bon. Alors, j'ai envie de dire que si j'avais voulu vous faire goûter un peu ce que c'est que la gestalt-thérapie, plutôt que de vous dire ce que c'est, le format aurait été un peu différent. On aurait beaucoup. Il aurait essentiellement été fait d'échanges. C'est-à-dire que j'aurais commencé par vous demander, mais ça vous évoque quoi, la gestalt? Ça vous fait quoi d'entendre ce mot? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce que vous imaginez? Et puis peu à peu, on aurait construit. Et puis, tiens, la poétique du soin et la psychothérapie, c'est quoi pour vous? Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? De quoi vous auriez envie? Voilà, on aurait été plus dans cette approche-là. En même temps, le temps est court, et je me suis dit quand même que vous veniez aussi pour avoir des choses à mastiquer. Donc j'ai pris un premier format, un peu sur votre directive, un format un peu conférence sur une heure où, voilà, vous aurez des choses à mastiquer, et puis après, on verra ensemble ce que ça donne. Et donc, la partie conférence, je l'ai organisée sur trois points, on va dire. Un premier point un peu rapide, qui est une présentation rapide de c'est quoi la gestalt-thérapie, de quoi on parle, déjà, ce mot mystérieux. Un deuxième point beaucoup plus conséquent qui est c'est quoi dire que la gestalt-thérapie est ancrée dans la phénoménologie? Qu'est-ce que ça implique et notamment qu'est-ce que ça implique au niveau de la poétique du soin, puisque c'est ce qui nous intéresse. Puis un dernier point très court sur soin, point d'interrogation.
J'ai juste une question avant de commencer. En fait, je pensais pas que ça serait aussi central, mais du coup, est-ce que quelqu'un pourrait juste me définir ce que c'est la phénoménologie, s'il vous plaît, pour que je puisse comprendre la suite. Parce que sinon, en fait, je vais pas avoir assez d'éléments.
La phénoménologie, c'est aussi un truc mystérieux. Tu vois. Je suis pas sûr que beaucoup de gens soient en capacité de répondre à ta question. Okay. Mais si tu veux, c'est un courant philosophique qui est né de la. Enfin, le terme phénomène, c'est le philosophe Kant qui l'a mis en lumière. Ça a été théorisé par un homme qui s'appelle Edmond Husserl. En fait, si tu veux, Husserl, il dit quand on parle de critique de la raison pure, c'est-à-dire que notre raison, notre capacité à raisonner, ne nous donne pas accès au monde dans sa réalité. On n'a pas la capacité de voir tous le même monde, un monde qui serait unique. Parce qu'on ne voit le monde que par l'intention qu'on y met, la direction. Moi, en tant qu'humain, je vais regarder le monde d'une certaine façon. Et ce que je pense être le monde, c'est le monde que je regarde de cette façon. Quand je regarde le monde, si je regarde Valérie, en fait, Valérie m'apparaît. Cette apparition de Valérie à moi, ça s'appelle le phénomène. Okay. Le phénomène, c'est ce qui t'apparaît. C'est ce qui apparaît, le phénomène. Okay. Et du coup, Husserl dit, au lieu d'étudier Valérie comme dire, Valérie est comme ci, comme ça, faire étudier l'essence complète de Valérie, ce qu'on ne peut pas faire, on va étudier comment Valérie m'apparaît à moi. Ça, c'est l'étude du phénomène, c'est la phénoménologie.
Ok, d'accord.
Est-ce que ça te,
okay.
ça
te parle ? Comment une situation, en fait, arrive à nous ?
Voilà, okay. C'est qu'en fait, la situation, de fait, elle nous apparaît. Okay. Et plutôt que, tu vois, comme le politique, pour être taquin, ou le journaliste qui va parler d'une situation globale que lui ne va peut-être même pas voir, donc ça, c'est pas très réel. Mais par contre, les situations que tu vois, elles t'apparaissent. Ce qui apparaît, c'est la définition du phénomène. Et donc, tu vas étudier. Étudier le monde, c'est étudier ce qui t'apparaît.
Ok. Ok, ça, d'accord. C'est bon, c'est...
En tout cas, merci d'avoir posé la question. Et je vous invite, si à un moment je jargonne ou vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Puis voilà. Okay. Et j'imagine que ça va aussi se clarifier.
Oui, je pense aussi, mais c'est au moins juste d'avoir...
Avoir le point de départ et pas rester bloqué avec un truc qu'on ne comprend pas.
Merci.
Ok, alors, gestalt-thérapie. Pourquoi ce mot déjà ? Ce mot qui a accroché monsieur. Gestalt, ça vient de l'allemand. Gestaltung. Et en fait, gestalt-thérapie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire thérapie de la forme en cours, on pourrait même dire, gestaltung. Donc, on voit bien qu'il y a un choix déjà d'emblée à ne pas parler de psychothérapie, thérapie de la psyché, mais une thérapie de la forme en cours. Et déjà, quand il y a le mot forme, on voit bien qu'il y a que la question de l'esthétique qui apparaît. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Alors après, juste une présentation rapide de comment est née la gestalt-thérapie. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est important de savoir par qui et quand ça a été créé. Parce que ça donne une idée des problématiques, des valeurs qui ont fait socle à ce courant-là. Alors, qui ? C'est pas une personne, c'est un collectif, déjà. Ça, c'est important. C'est un collectif, alors on dit traditionnellement qu'il y avait 7 personnes. En fait, c'est un groupe qui se réunissait un peu comme ici. C'était un groupe de recherche. Mmh. Et donc, ça allait, ça venait, et il y a 7 personnes dont on pense que vraiment elles étaient le noyau central. Un peu comme si un jour vous faites école, on dira il y avait le docteur Jean Fayat, il y avait Lia, il y avait. Voilà. Et vous.
C'est le troisième.
Voilà. Alors, le premier, c'est quelqu'un qui s'appelle Frédéric Perls. C'est un monsieur qui vient de l'Allemagne. Il part de l'Allemagne en 1933 avec les événements. Il va d'abord en Hollande, il va en Afrique du Sud, puis il émigre aux États-Unis. Je vous la fais rapide. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce monsieur ? Il était psychiatre et psychanalyste. Très proche de Freud, bien sûr. Okay. quand il part en Afrique du Sud, il va écrire un livre qui s'appelle « Le moi, la faim et l'agressivité », qui révise la théorie freudienne. Et au lieu du succès auprès de Freud qu'il escomptait, c'est un échec cuisant. Et comme avec beaucoup, c'est la rupture, la scission. Ce qui est très douloureux pour Peirce, ce qui va certainement l'amener à penser sa propre approche. Ce qui est important aussi de savoir sur cet homme, c'est que c'est un homme de théâtre. Vraiment. Je vous le dirai au fur et à mesure, mais tout ce collectif, ce sont des gens qui s'intéressent à l'art. Sa femme, Laura Peirce, du côté de l'art, elle est pianiste et elle danse énormément. Elle est psychanalyste et elle est aussi psychologue. Et en tant que psychologue, elle s'intéresse énormément à la Gestalt théorie. C'est quoi la Gestalt théorie ? En fait, c'est une approche psychologique qui s'intéresse à la façon dont nous percevons, nous structurons, nous organisons les informations. Et en fait, la Gestalt théorie, ça insiste sur le fait que notre perception des choses, spontanément, elle est globale. Et que ce n'est qu'après qu'éventuellement nous analysons, nous repérons des détails, etc. Mais nous percevons les choses de manière holistique. Voilà. Nous décomposons si nécessaire. Le troisième larron de l'histoire, et là on a les trois principaux, c'est Paul Goodman. Quelqu'un qui est assez connu aux États-Unis dans les années 50. Qui a une activité très, très éclectique. Il est penseur, il est écrivain, il est poète, il est homme de théâtre, il fait de la recherche, il est enseignant, il est romancier, il est essayiste, il produit beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a marqué la culture américaine de cette époque-là. Son écrit qui a marqué, c'est Growing Up Absurd. Je crois que c'est paru en 60. Qui est en fait une critique sociale et culturelle importante. Donc c'est quelqu'un qui s'inscrit dans le mouvement anarchiste et la contre-culture. Il critique la société dominante, il défend la liberté individuelle, les droits civiques, il défend des idées alternatives sur la vie communautaire, il a une vision progressiste de l'éducation. Voilà. Et ça va. C'est très présent dans la Gestalt thérapie. En fait, c'est lui qui va amener la notion de champ en Gestalt thérapie. Bon, j'y reviendrai plus tard. On a quelqu'un qui s'appelle Isadore Fromm, qui est mort il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il est mort en 94, psychologue, lui aussi allemand émigré, et c'est lui qui va apporter la phénoménologie en Gestalt. Alors, la petite définition que je donnerai de la phénoménologie, phéno pour les intimes, c'est plus facile, c'est une approche qui donne le primat à l'expérience. L'expérience directe et subjective. Cette expérience qu'on fait de la réalité. Alors que d'autres approches vont donner le primat à l'objectivité, à la rationalité. La phéno, elle va s'intéresser vraiment à... Mais l'objectivité, la rationalité, ça n'existe pas. Si on se place à l'endroit de la phéno, le choix, c'est ça n'existe pas. On regarde ça à partir de l'expérience. On regarde tout le monde à partir de l'expérience subjective. Ce sont des... Comment dire ? Dire ça, c'est dire pas que ce n'est pas dire que c'est la vérité. Ce sont des choix, des lunettes qu'on met pour regarder ce qui se passe. Un autre, Paul Weiss, je ne sais pas grand-chose de lui, mais ce qui est important à savoir, c'est qu'il apporte dans le berceau de la Gestalt le zen. Quelqu'un qui est passionné par la culture de l'extrême-orient. Donc il va apporter la méditation, l'ici et maintenant, le célèbre ici et maintenant de la Gestalt, qui en fait n'est pas l'ici et maintenant, c'est here, now and next. On oublie souvent le next. Mais c'est toujours ici, maintenant, pour le pas d'après. On a Ralph Efferlin, qui est un universitaire. En gros, ce monsieur, c'est le tampon de sérieux de la Gestalt thérapie. Et Eliot Shapiro, qui est un psychologue, directeur et défenseur de l'école publique. Il a vraiment aussi été très actif là-dessus. Ok. Donc tout ce petit monde se réunit régulièrement. Et pour produire en 1951 le livre de la Gestalt Thérapie, qui ne rencontre aucun succès. Il faut savoir que ça a failli, alors ça aussi ça dit beaucoup, ça a failli s'appeler la thérapie de la concentration. C'est Perls qui défendait ça. La thérapie existentielle, c'est Laura Perls qui défendait ça. La thérapie intégrative, Eferline défendait ça. Et thérapie expérientielle, tous ces mots-là, ça dit de ce que porte la Gestalt thérapie. La concentration en termes de présence à soi et au monde, existentielle, toutes les thématiques existentielles et les questions de sens. Thérapie intégrative, parce qu'on voit bien qu'on va chercher dans différents domaines, et expérientielle, parce que ce qui prime, c'est l'expérience. En 1956, Perl, c'est un peu là de voir que la Gestalt ne rencontre pas le succès qu'il escomptait. Il quitte le groupe et il s'en va sur la côte ouest. Et en 1968, il devient célèbre avec ses fameuses sessions des Salennes et le Haut Site. Pour le grand public, la Gestalt Thérapie, ça va être ce que fait Perls qui est filmé. On trouve encore sur YouTube des sessions dirigées par Perls. Mais c'est la Gestalt de Perls en 1968. C'est pas la Gestalt que tous les gestaltistes pratiquent. Donc souvent, quand on parle Gestalt, dans l'esprit du grand public, c'est le Haut Site, c'est taper sur des coussins, c'est une espèce de dispositif un peu spectaculaire et émotionnel. Ça peut être ça, c'est loin de n'être que ça. Donc, en vous présentant toutes ces bonnes fées là au-dessus du berceau de la Gestalt, ça vous dit que puisqu'il y a quand même deux psychanalystes dans l'histoire, même s'ils sont en rébellion, à la base ils le sont quand même. Donc quand on lit le livre Princeps, il y a presque la moitié du bouquin, ça explique en quoi la Gestalt est différente de la psychanalyse, c'est quand même particulier. Mais ils sont quand même influencés, donc dans les influences de la psychanalyse, on trouve la question du fond. Pourquoi le fond ? Parce que dans la Gestalt, la thérapie de la forme en cours, la forme, elle émerge d'un fond. Il y a un rapport figure-fond. Et le fond, c'est quelque part ce qui est déjà là. Donc Perls s'y met tout ce qui est histoire, contexte, culture, valeur, croyance. Une espèce de grande soupe qui nous habite, qui est là, qui serait là. Et puis, de temps en temps, il y a des figures qui émergent. Une figure qui émerge, c'est quelque chose qui fait que, il se passe quelque chose. Pour l'instant, je ne dirais que ça. Il se passe quelque chose. Donc, il y a cette histoire de fond qui est présente. Il y a une vision holistique, globale, de l'être humain. La question de l'ici et maintenant, la question du corps, de l'art, de la créativité, avec ce que sont ces personnes. La question de l'expérience, voire l'expérimentation, la subjectivation avec la phénoménologie et tout ce qui est contre-culture, c'est-à-dire attention à se singulariser et à ne pas être emporté par le flot de la société, des croyances en cours, de la culture dominante. Dire qu'il y a tout ça dans la Gestalt, c'est dire qu'on peut la tirer vers plein d'endroits différents. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce que je vous disais au démarrage, tous les gestaltistes n'ont pas la même pratique. Là, je ne vais pas vous citer tous les courants, parce que je trouve qu'en fait, il y en a plein qui sont en perte de vitesse. Je dirais qu'aujourd'hui, les deux courants majeurs de la Gestalt, c'est un courant qui tire vers la psychanalyse ou un courant qui tire vers la phénomène. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Simplement, sont des approches qui ne s'appuient pas sur les mêmes aspects théoriques de la Gestalt et qui, du coup, développent une autre approche. Ok. Est-ce que ça vous donne un petit aperçu suffisant de ce que c'est que la Gestalt ? Vous avez un peu compris comment c'est né, etc. Ok. Passons au deuxième point, qui était un peu la commande. En quoi la Gestalt-thérapie s'inscrit dans une poétique du soin ? Alors, je dirais rapidement que moi, quand je me suis posé la question, je me suis dit, bah, poétique, oui, bien sûr. Soin, je ne sais pas. Faudrait expliciter. Bon. Ça, c'est un peu rapide. On va quand même déplier, puis voir pourquoi oui et pourquoi je ne sais pas. Et du coup, moi, je retrace un petit peu mon chemin. Je me suis dit, bon, poétique, c'est quoi ? Ben, si je le prends au pied de la lettre, c'est l'art de la création littéraire, dans la forme particulière de la poésie. Ok. Bon, donc, il est question d'art, de création, de poésie. Est-ce que c'est le cas en gestalt-thérapie ? Eh bien, oui. Dans la gestalt, dans une posture phéno-chant, il est question de tout ça. Alors, dire qu'il est question de tout ça, avant d'y rentrer plus profondément, ça ne veut pas dire que ça évacue la technique, qu'on soit clair. Parce que de toute façon, dans tout art, il y a un apprentissage de différentes techniques. Donc là non plus, on n'y coupe pas. Comment dire, la technique, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Quand je parle de technique en thérapie, bon, on a enfin, tout, à peu près tous les courants psychothérapeutiques ont les mêmes techniques. Le plus petit dénominateur commun, ça va être les compétences d'accueil, les compétences d'écoute, les compétences de présence, les compétences de mise en œuvre du cadre, etc. Tout ça, c'est ce que j'appelle des techniques. Et tous les thérapeutes ont besoin de les acquérir. Maintenant, ces techniques, on les met en œuvre en vue de quoi ? Et là se font les grandes différences. Quand je dis en vue de quoi, ça pose la question de, en tant que thérapeute, quelle vision j'ai de ce que je fais, de ce que c'est l'homme, de ce que c'est que l'homme dans le monde, de ce que c'est que le changement. Je ne peux pas accompagner en termes de thérapie quelqu'un sans me poser ces questions-là. Ou en tout cas, sans avoir des réponses peut-être non conscientes à ces questions-là. C'est clair ce que je raconte ? Parce qu'en fonction de l'idée que je me fais de ce que c'est qu'un homme on va dire entre guillemets en bonne santé, de ce que c'est que le bon développement, de ce que c'est que être bien, être heureux, eh ben, je ne vais pas viser les mêmes choses, je ne vais pas faire les mêmes choses. Donc ce sont des questions centrales. Et le point, ce qu'on va voir, pourquoi est-ce qu'il y a de la poétique dans la gestalt, pourquoi c'est central même, parce que s'appuyant sur la phéno, la vision qu'adopte la gestalt-thérapie de l'homme et du monde est radicalement différente d'une approche rationnelle et mécaniste. Et là, encore une fois, j'insiste toujours là-dessus, ça ne veut pas dire que je suis dans un jugement de valeur. C'est juste différent, c'est tout. Il y a des psychothérapies qui sont dans une approche rationnelle, mécaniste, et qui fonctionnent très bien. Et en fonction de qui on est en tant que thérapeute et de qui on est en tant que patient, on peut avoir envie d'autres choses qui fonctionnent très bien aussi. Ok, alors c'est quoi la différence ? Bah, d'un côté, on a une vision scientifique, bon, qui est très à l'œuvre aujourd'hui, hein, qui réduit volontairement la complexité du vivant pour pouvoir accéder à une forme de standardisation, faire une dichotomie pour étudier, pour analyser, pour déduire des mécanismes qui fonctionnent sur des liens de cause à effet, ok, et en étant, en regardant ce qui peut se vérifier, ce qui peut se reproduire, d'accord. De l'autre, on a la phéno, et qui, elle, va s'appuyer sur la globalité du vivant, sur l'indissociabilité des phénomènes du vivant et sur leur irréductible singularité. On va voir ça plus en profondeur. Là, ça va devenir un peu plus c'est pas de technique. N'hésitez pas à m'arrêter si si je suis tout, enfin, si je vais trop vite. Approche rationnelle d'un côté, approche phéno de l'autre. Ok. On regarde point à point ce qui diffère. Dans l'approche rationnelle, on va définir ce qui est étudié pour essayer de capter ce qui ne change pas et on va se focaliser sur l'universel. Dans l'approche phéno, on va regarder ce qui fait l'unicité à travers l'expérience directe. Ça, c'est l'explication, c'est l'explication rationnelle. Je vais vous la faire goûter autrement, si je retrouve mes petits papiers. Là, c'est la 6. Un poème. Je vais beaucoup vous lire des poèmes de Fernando Pessoa ce soir, qui a eu plein d'hétéronymes, c'est-à-dire qu'il a écrit sous plein d'identités différentes. Pour moi, c'est vraiment le poète de la Gestalt. Donc, regardez ce qui fait l'unicité à travers l'expérience directe. Pessoa nous donne à sentir. Je ne sais pas ce que je pense quand je pense que je pense. Je pense à quoi ? Je pense à rien. Je pense sans savoir penser. Je me vois de loin, mais de si loin que je me perds. Je ne sais pas ce que je sens quand je sens que je sens. Qu'est-ce que je sens ? Nul ne le sait, pas même moi-même. Il se passe quoi là ? Deuxième point, approche rationnelle, on va interpréter la situation pour accéder à ce qui régit la situation. En fait, nous, pas du tout. On va décrire la situation pour en faire ressortir la spécificité. Pessoa nous dit, je suis un étranger pour moi-même. Et c'est le bonheur de mon inconstance. Je suis un continuel point d'interrogation. Pour la phéno, ça ne pose aucun problème. C'est comme ça que c'est. C'est ce qui est. Troisième point de différence essentielle, dans l'approche rationnelle, il y a le postulat qu'il existe une réalité objective avec des objets qui existent indépendamment de la conscience que nous pouvons en avoir. C'est clair ça ? C'est-à-dire que bah là, il y a un verre, là, il y a, j'ai oublié votre prénom.
Bernadette.
Il y a Bernadette. tout ça existe séparément et tout ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Voilà. Eh bien, la phéno, pour la phéno, pas du tout. Pour la phéno, la façon d'envisager les choses, c'est de dire que ce que nous disons réel est inextricablement lié à nos processus mentaux de construction de sens. Et que s'il existe une autre réalité, de toute façon, elle nous est inaccessible. C'est-à-dire que Bernadette n'existe pour moi que parce que je la vois. Que j'y ai accès, qu'elle m'apparaît, comme on disait tout à l'heure.
Mais c'est dans la mesure où on connaît quelqu'un qu'on peut le penser autrement, enfin avec plus, d'une manière plus profonde.
Alors,
parce que quand on voit quelqu'un pour la première fois, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir d'idée sur la personne.
C'est pas une idée, c'est tiens, qu'est-ce qui se passe quand je vois Bernadette ? Ben pour moi, ce qui se passe, c'est que je suis happée par des yeux bleus. Des yeux bleus à la fois d'un clair et d'une profondeur qui m'intimide presque.
Ah bon, faut pas.
Bah, si, faut pas, ça me fait ça. Je vois une femme qui me semble avoir vécu. Et ça me.
Depuis un certain temps.
Ça me fait curiosité. Voilà ce qui se passe pour moi.
Oui.
Mais je pense que si Cyril regarde Bernadette, il ne se passe pas du tout la même chose. Ce n'est pas la même Bernadette qu'il voit.
Je comprends. Oui.
Et puis peut-être on se recroisera dans une autre session. Et bien sûr, la perception que j'aurai de vous sera à nouveau différente. Oui. Déjà parce qu'elle aura été nourrie par cette session, oui. mais parce qu'on ne sera pas dans la même humeur. Oui. Vous aurez peut-être des lunettes de soleil. Oui. Et c'est à cette singularité-là que nous nous intéressons. Et l'essence, c'est-à-dire ce que vous appelez votre profondeur, elle existe certainement. Mais moi, je ne peux rien en dire, puisque je n'y ai pas accès. Et à ma propre profondeur même, je n'ai pas accès, puisque ma propre profondeur ne m'est accessible que par facette, qu'au fil de mon expérience. Je ne peux pas plonger dans l'entièreté de ma profondeur, elle ne prend pas forme en fait. Elle ne prend forme que dans l'expérience en cours.
Et je me permets, Bernadette, vous n'avez pas dit, mais vous êtes peintre.
Oui.
Et je pense que tout ça est très en lien avec votre travail.
Ah oui, mais c'est vrai.
La façon dont vous regardez ce que vous peignez et voir comment le retranscrire, mais vous dites souvent sans forcément la faire du figuratif, quoi.
Non,
comment
effectivement, d'abord je marche beaucoup, et la marche, justement, me fait penser. Le fait de marcher me fait penser. Et ça ne veut pas dire que je ne pense pas ailleurs, mais c'est vrai que le fait de marcher, d'abord je marche seul pour juste profiter au maximum du paysage, parce que si je suis avec quelqu'un, on parle et je ne vois plus le paysage. J'ai besoin d'être absolument seul pour voir le paysage que je vais peindre et qui m'arrête au moment où justement je vais le peindre. Que je ne sais pas ce que je vais faire.
Il se passe quelque chose.
Oui, c'est en marchant que tu dis, ah, c'est là toi.
C'est dans la rencontre à l'environnement que tout à coup, quelque chose fait figure.
Oui.
C'est ça qu'on va appeler figure. Oui. Tout à coup, vous marchez, vous êtes disponible, mais bon, voilà,
c'est tout.
Et tout à coup, quelque chose interagit avec l'environnement, quelque chose se passe à la frontière contact, et vous dites, c'est là, c'est là. C'est ça le rapport figure-fond, l'événement. D'ailleurs, pour illustrer ce point de différence, encore une citation de Pessoa, « Je suis tout ce que je vois, je ne suis pas plus que ma vision, je ne suis pas plus que ma façon de voir. » Mais qui se déplie d'instant en instant.
En même temps, c'est très modeste.
C'est très modeste et en même temps, je trouve que ça rend compte de... C'est très modeste et en même temps, c'est la boucle à l'infini.
Oui, oui.
Jusqu'à l'instant de la mort. Une autre différence, pour l'approche rationnelle, il y a des sujets et des objets, il y a l'intérieur et l'extérieur. Pour l'approche phénoménologique, corps, esprit, monde sont interconnectés. Je n'existe pas en tant que tel, en tant qu'unité séparée. Je est un avec le monde. Pessoa le dit aussi très bien, c'est laquelle ? C'est la 2. Je suis un oiseau de passage, j'ai besoin du monde pour passer. Nous n'avons pas conscience, en fait, surtout dans la culture occidentale, on est habitué à se considérer, habitué et invité à se considérer comme complètement séparé, c'est Ehrenberg, la fatigue d'être soi, à se porter séparé du monde, séparé de... Il y a comme un abandon de l'unité que l'on peut faire avec d'autres humains ou même avec la nature. Mais pourtant, venir au monde, c'est faire un avec la nature, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas exister hors de notre biotope. Venir au monde, c'est respirer l'air. Et si ça, ça n'est pas, nous ne sommes pas. Et il y a quelque chose que nous oublions de cette indissociabilité. La Fénon met l'accent là-dessus, et la Gestalt, donc. Et donc, pour l'approche rationnelle, bien sûr, je existe. Et je vis des expériences. Pour la Fénon, je est en permanente émergence, disparition. Il apparaît au début de l'expérience, disparaît au cœur de l'expérience, réapparaît à la fin dans le processus réflexif qui décrit l'expérience. Alors, comment est-ce que je vais essayer de le reformuler ? Je n'est pas une espèce d'entité fermée, une boîte noire. Je est en perpétuelle création à l'occasion de la rencontre avec le monde, avec le monde que, vers lequel mon intention, mon intentionnalité, ma conscience se dirige. Donc il y a une forme de création permanente dont nous ne sommes pas conscients. J'allais dire que pour le repos de notre cerveau, nous avons la sensation qu'on est bien stable, bien constitué, bien dans le dur. Et en réalité, nous nous créons en permanence, d'instant en instant. Mais sur tous les plans, il y a une activité au niveau de nos cellules. Notre corps, en permanence, se renouvelle. Mais pas que nos cellules, notre psyché, en permanence, se renouvelle. Ça vous parle, ce que je dis là ?
Bien sûr.
Qu'est-ce qui est dit déjà ? Je est un autre.
Tu Rimbaud ?
Rimbaud ? Oui. Rimbaud. Ah, c'est
Rimbaud ? Oui.
Ah, d'accord.
Et bien, toujours Pessoa qui nous dit, toi, je suis un éternel voyageur vers d'autres éternités, vers d'autres moi. J'en avais une autre. Ah oui. J'aime bien celui-là. Entre le sommeil et le songe, entre moi et ce qui est en moi, et l'être que je me suppose, coule un fleuve sans fin. Il est passé par d'autres rives, toujours d'autres et plus lointaines, au cours de ces nombreux voyages que connaissent les fleuves. Il est venu où j'habite à présent, la maison qu'à présent je suis. Il passe si je me médite. Si je l'éveille, il est passé. L'être que je ressens, qui se meurt dans ce qui m'enchaîne à moi-même, sommeil où le fleuve s'écoule, ce fleuve n'a pas de fin. Donc ça, c'était vraiment une forme d'opposition entre l'approche rationnelle et l'approche phénoménologique. Alors maintenant, ça c'est, j'allais dire, l'aspect général. Comment ça se traduit dans le soin, en fait, puisque c'est le mot consacré ici, mais en tout cas dans l'accompagnement de la personne. Comment ça se traduit en situation thérapeutique, en situation clinique ? Donc, nous avons, le paradigme de l'individu. C'est un grand mot pour parler de toutes ces thérapies qui s'appuient sur une approche rationnelle, telle que la psychanalyse, par exemple, ou l'analyse transactionnelle. Voilà. Là, il y a bien une séparation monde-individu. Du côté Gestalt, on va prôner l'indissociabilité organisme/environnement. Qu'est-ce que cette petite expression dit ? Et en fait, dans cette petite expression organisme/environnement, étrangement, le plus important, c'est le slash. Et pourquoi c'est pas personne, enfin être humain, slash environnement, ou être vivant, slash environnement ? Parce que ce que ça veut mettre en exergue, c'est ce mouvement d'apparition dont je vous parlais. C'est-à-dire que ce que la gestalt va pister, va regarder, c'est ce qu'on va appeler les formes d'entrée en présence, la façon dont, dans une situation, tout à coup, nous sommes là, tous ensemble. Mais à quel moment quelque chose va se différencier et faire que, ah, il y a un environnement qui se dessine, une figure qui émerge, et je me différencie, il y a quelque chose qui se passe entre nous. C'est-à-dire que là, par exemple, je vous parle, mais c'est comme si je parlais à une forme indifférenciée. Mais tout à l'heure, il y a quelque chose, il s'est passé quelque chose entre nous. Tiens, on s'est parlé vraiment, on s'est approché. C'est quelque chose à s'est passé dans l'antre. Vous voyez ce que, et c'est l'antre qui nous intéresse. Qu'est-ce qui va se passer dans l'antre? Qu'est-ce qui va comment va se passer ce contact? Cette frontière contact qui nous lie et qui nous différencie. Comment on va pouvoir l'observer? Comment ça va se faire de façon fluide ou chaotique, ou toujours de la même façon, ou d'une façon renouvelée? En gros, comment on va s'apparaître les uns aux autres? S'apparaître au sens fort du terme, c'est-à-dire comment on va se mettre à exister les uns aux autres, et non pas seulement à être vivants là ensemble dans la même pièce. Vous voyez la différence que je fais? Être vivant là ensemble dans la même pièce, bon bah on y est. J'allais dire, si je prends des termes phénoménologiques, on bavarde. C'est-à-dire que quand je disais on est là, je fais une conférence, il ne se passe pas grand-chose, ce que la phéno appelle la quotidienneté. C'est-à-dire je suis là pour faire une conférence, je la fais, vous êtes là pour écouter, vous écoutez, nous fonctionnons. C'est pas péjoratif, il faut bien qu'on fonctionne dans la vie. À un moment donné, si je prends cette paire de lunettes, il faut bien que je me dise c'est une paire de lunettes, ça va sur mon nez, c'est pour regarder pour lire ce que j'ai là devant les yeux. Il faut pas que je commence à avoir une crise existentielle, à me dire c'est quoi cette chose? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Il faut bien qu'on puisse fonctionner au quotidien, mais nous ne sommes pas au monde juste pour fonctionner. C'est ça que pointe la phéno, la gestalt. Nous sommes au monde pour nous donner sens, pour qu'il se passe des choses qui font que nous nous mettons à exister. Exister, c'est... Quelle définition je vais en donner là? C'est dans une situation se donner sens. Trouver une nouvelle orientation de son être qui n'est pas juste le flot de la quotidienneté et du fonctionnement de l'outil, mais de quelque chose qui tout à coup m'interpelle, m'appelle à sortir de cette quotidienneté pour me dire ok là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Une forme de situation à haute intensité. Donc c'est ça qu'on va pister. Okay. Deuxième point. Le paradigme de l'individu va s'intéresser au pourquoi des choses, la causalité. C'est-à-dire des thérapies qui vont s'intéresser à ok, vous avez un problème, expliquez-moi comment ça se passe, qu'on comprenne où ça se situe, pourquoi vous avez ce problème, qu'on puisse le résoudre. En gestalt, on ne va pas s'intéresser du tout à ça. On va s'intéresser au pour, plus loin, quoi. C'est-à-dire la finalité. En vue de quoi? C'est important ça, parce que ça veut dire que dans le pourquoi, causalité, paradigme de l'individu, il y a l'idée qu'on va trouver la raison, en général, d'un dysfonctionnement, ou en tout cas d'une souffrance, d'une difficulté. C'est une façon de regarder la situation. Pourquoi pas? En gestalt, on ne va pas regarder ce qui pose, ce qui amène souffrance, qui est considéré comme faisant partie de la vie humaine, on ne va pas regarder ça comme un problème. On ne va pas regarder ce qu'on appelle habituellement une pathologie comme quelque chose dont il faudrait trouver la cause pour la guérir. On va regarder en quoi ça parle de quelque chose que la personne a mis en place en vue de quelque chose. Toute pathologie, en fait, est une création dans le regard gestaltiste. C'est-à-dire que c'est ça a été à un moment donné un ajustement que la personne a trouvé à l'environnement, qui au fil du temps devient une adaptation, c'est-à-dire que ça devient un effort, pour pouvoir continuer à vivre ce qu'elle désirait vivre. Le problème, c'est que cet ajustement qu'elle a trouvé à un moment, à la longue, devient souffrant parce qu'elle y reste coincée, et du coup, ça lui cause souffrance. Mais ce n'est pas la pathologie qui a un problème. C'est le fait que ça lui pose, que ça la fasse souffrir. Et l'idée, ce n'est pas de remonter au pourquoi, comment elle a mis ça en place, mais de regarder, tiens, mais c'est ça c'est ça qu'il faut rechercher. Ok. De regarder la pathologie, j'allais dire, sous un aspect positif. Pour, j'allais l'accepter. Et le fait même de l'accepter va pouvoir, paradoxalement, amener du changement. Accepter l'endroit où on est. Et non pas le renier. Vous sentez-vous libre de m'arrêter et de me poser des questions? Parce que là, j'ai l'impression de... Alors...
Non. J'ai bien aimé le terme que vous venez d'utiliser là tout à l'heure. C'était « Toute pathologie est une création ». Ah, ça m'a... C'est... Pour moi, c'est ça la poésie aussi.
C'est un peu l'idée que rien en nous n'est nuisible, en fait, et que cette approche-là, elle nous permet de sortir d'une vision d'ennemi en nous-mêmes qui va venir nous cliver et nous remettre en guerre, finalement, perpétuellement.
Exactement.
C'est un petit peu ça que ça soulève.
Tout à fait. Dans le paradigme de l'individu, les thérapies vont s'intéresser à trouver ce qui est caché. C'est-à-dire chercher éventuellement les raisons inconscientes quand on est en psychanalyse, mais en fait, de quoi ça parle là, ce qui est en train de se dire? Qu'est-ce que la personne est vraiment en train de mettre en œuvre? Pas du tout l'endroit où on pose notre regard en posture de champ et phénot. Ce qu'on va aller regarder, c'est... Qu'est-ce qui m'apparaît? Qu'est-ce qui se donne à voir? C'est-à-dire qu'on passe de l'arbre qui cache la forêt à l'arbre qui montre la forêt, en fait. Donc c'est deux façons différentes de regarder les choses. Paradigme de l'individu, le thérapeute est centré sur l'autre. Sur le patient. Le thérapeute, il est là, et vraiment, il est centré sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous me dites, pourquoi, comment, etc. Thérapie dans le paradigme phéno-champ, le thérapeute est centré sur l'atmosphère. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Ça a quel goût ce qui est là? Comment ça vient me toucher? Individu, on a un thérapeute qui a des connaissances, un thérapeute sachant, qui doit utiliser ses connaissances pour mener à bien son projet. Paradigme de champ, on a un thérapeute qui met en suspens son savoir volontairement pour être simplement existant à l'autre. C'est-à-dire que dans le côté phéno, le côté connaissance, n'est pas ce qui est prégnant, ce qui est mis en avant, ce qui est le plus utile. Ce qui est le plus utile, c'est vraiment comment je suis en présence à l'autre, comment je suis là, comment je capte ce qui est là avec l'autre, et comment l'autre est présent avec moi. C'est ça qu'on va aller travailler, mastiquer.
La connaissance, elle pourrait peut-être me fourvoyer. Voilà. Dans quelque chose que je pense qui est déjà
que je connais.
Voilà, exactement. Et du coup, je rebondis aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure. Bah oui, mais quand même, il faut un peu de profondeur pour connaître l'autre, et donc un peu de rencontre. Et ben nous, au contraire, on va essayer, justement, quand on voit quelqu'un depuis longtemps, il y a cet effort, j'allais dire, en permanence à faire, d'essayer de mettre en suspens ce qu'on connaît de la personne.
Oui, connaît déjà.
Voilà,
pour redécouvrir quelque chose
voilà,
de nouveau.
Voilà, pour être dans cette fraîcheur, ouais. Pour tenter de garder cette fraîcheur de la découverte, en fait.
Un courant, on pourrait dire. Ouais. Quelque chose qui nous porte à nous découvrir.
Ça rappelle ce que disait Duras sur l'imbécilité, travailler dans l'imbécilité, c'est-à-dire dans une sorte de naïveté.
Oui.
Avoir un regard. Enfin, c'est très,
oui, travailler ouais. Dans l'imbécilité, c'est-à-dire sans laisser venir à soi ce qui vient. Elle disait par exemple quand elle écrivait qu'elle avait la tête toujours trouée, comme une passoire. Et elle se mettait dans un état de réceptivité. Et elle laissait venir justement le phénomène, l'émotion, enfin. Tout ce qui venait de la traverser, mais elle parlait d'un état de déconcentration totale pour accueillir, là en l'occurrence c'était l'écriture, mais ça pourrait être, à mon sens, oui, toute émotion, voilà. C'était un peu ça le travail dans l'imbécilité.
Et c'est tout à fait ça. Alors, sauf qu'il y a cette espèce d'aller-retour. Parce que je ne peux pas juste être, en tant que thérapeute, je ne peux pas juste être dans cette réceptivité. Et c'est ça qui est difficile pour les étudiants, c'est cette espèce de va-et-vient en permanence entre cette posture qu'on vient de décrire, et puis quelque chose d'un peu plus actif. Donc, du côté du paradigme de l'individu, on va tenter de saisir, pour expliquer, pour comprendre. Du côté de la phéno et du chant, on va s'étonner, observer, décrire, expliciter, vibrer au sensible. Il y a un texte que j'aime bien qui est d'une gestalt thérapeute qui s'appelle Sylvie Choc de Neuforme. Elle nous parle d'un concept gestaltiste qui s'appelle l'awareness, ou peu importe, je trouve que ça parle de ce que je viens de vous dire. Une façon d'appréhender le monde avec mes sens. Une façon de percevoir le paysage et les gens autour de moi, et aussi mon paysage intérieur, sans passer par l'intellect et la conscience réflexive. Une descente dans l'infiniment futile, mais aussi subtile. Une attention à la délicatesse du détail. Une immersion dans ce qui est en cours. Un sens d'une unité indissociable, corps, esprit, monde. Un fond de curiosité qui repose sur l'expérience que les choses et les événements, si l'on y porte attention, se laissent découvrir dans leur immense complexité. Une façon d'y être sans peser, détaché et engagé à la fois, de rencontrer ce qui se présente et de le laisser s'éloigner. L'awareness est ce qui me permet d'accéder à la sensation de la vie, à la poésie de l'instant. C'est une disposition permanente qui accompagne le travail du thérapeute et qui se développe conjointement chez le patient de telle sorte qu'il a accès à son expérience d'une manière plus large et profonde. Et si l'awareness était, du fait qu'elle échappe à toute conceptualisation, non théorisable.
Ça a des échos quand même avec la méditation zen. Avec... la non-dualité.
Oui. D'un côté, on a maîtrisé, interprété. De l'autre, on a s'abandonner à l'inconnu de la situation. Vous voyez que les postures thérapeutiques sont vraiment très différentes. Hein. D'un côté, on a une forme de neutralité. De l'autre, on a du dévoilement. Et ça, je dirais que c'est une des différences essentielles qu'on va trouver. C'est-à-dire que dans les thérapies paradigmes de l'individu, il y a une forme de neutralité, soit très avancée chez un psychanalyste pur et dur, soit un peu plus délayée quand il y a du face-à-face. Mais... Il y a vraiment l'idée que le thérapeute doit quand même rester un miroir. Dans le paradigme Fénot et Champ, comme il est question d'exister l'un à l'autre, le thérapeute va se dévoiler. Alors, il ne s'agit pas de dévoiler son histoire, c'est pas ça le point. Il va dévoiler ce qu'il ressent là, dans l'instant, face à cette personne. Au fond, quand on y réfléchit, c'est la plus grande intimité qui soit. De dire à l'autre, ben, quand tu me dis ça, moi voilà ce que je vis. Voilà ce que ça me fait ressentir. Et l'intérêt de ça, c'est vraiment d'alimenter cette montée en intensité de la rencontre. Et quand je dis que le thérapeute se dévoile, ça veut dire que de ce côté-là, du côté Fénot-Champ, il y a un réel engagement. C'est-à-dire que le thérapeute, il engage sa peau. Il n'est pas planqué. Il se mouille. Il n'est pas, en tout cas, il n'est pas protégé par cette fameuse neutralité. De l'autre côté, on est impliqué. Voilà, on est concerné quand même par ce qui se passe. Mais on est protégé par cette posture. Il y a un endroit où on peut se cacher. Là, on ne peut pas se cacher. Il faut qu'on existe à la situation avec authenticité en plus. Si je suis très concrète, très cash, si mon patient m'ennuie, il va falloir que je puisse lui en dire quelque chose à un moment donné. Peut-être pas aussi brutalement que je m'ennuie, mais il va falloir que je puisse lui en dire quelque chose. S'il m'agace, il ne s'agit pas de passer à l'acte et de me mettre en colère contre lui, mais il ne s'agit pas non plus de me taire. Ça dit quelque chose de ce que nous sommes en train de vivre ensemble, de la façon dont cette personne m'apparaît et vit avec moi.
Est-ce qu'il n'y a pas la question de ce qu'on appelle le kairos, c'est-à-dire le bon moment de le dire?
Oui, merci, j'avais oublié. L'instant de grâce, à l'opposition de chronos. De l'autre côté, on va beaucoup s'intéresser à chronos, c'est-à-dire le temps chronologique qui va avec la causalité, qui permet de trouver le pourquoi du comment. Là, on va s'intéresser à kairos. Alors oui, il y a le moment pour le dire, mais c'est surtout kairos en gestalt thérapie. Alors, merci de l'amener, ça fait la très bonne transition. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Créer de l'existant, ok, vous ne me posez pas la question, mais je pourrais me dire, bah, créer de l'existant c'est gentil, mais enfin, en quoi c'est utile en thérapie en fait? Est-ce que les gens viennent vraiment pour créer de l'existant? En général, les gens viennent nous voir parce qu'en gros, ils ont un problème. Ils ont besoin de, je sais pas quoi, ils ont besoin de changer de poste. Ils sont malheureux dans leur poste. Ils ont envie de quitter leur femme ou leur mari. Leur enfant est décédé. Enfin, quand ils viennent avec ces problématiques-là, créer de l'existence, c'est un peu le cadet de leurs soucis. Mais pourtant, c'est ce que nous on va faire. C'est ce que nous on va poursuivre. Parce que ce qu'on poursuit, c'est ce qu'on appelle l'ajustement créateur. J'en ai un peu parlé tout à l'heure avec la pathologie. C'est-à-dire que ce qu'on poursuit en gestalt dans une posture Fénot et Champ, c'est de vivre en séance un processus créatif, vivant et altérant. C'est ce mot-là qui est important, altérant, qui rend autre. L'idée, c'est que en créant les conditions de ce processus créatif, vivant, altérant, il va donc se passer quelque chose qui en général n'a rien à voir avec ce que le patient amène de son ailleurs. C'est-à-dire que le patient, il fait son boulot de patient, il amène ses problématiques de son ailleurs. Moi, en tant que gestalt thérapeute, je n'ai aucun pouvoir sur son ailleurs. Je ne vais pas pouvoir persuader la femme de ce monsieur d'être plus compréhensive, plus sympathique. Je ne vais pas pouvoir aider ce monsieur à être calme quand sa femme lui demande de ranger ses chaussons. Enfin bref, peu importe. Je ne peux rien faire sur ce qui se passe là-bas. Le seul endroit où j'ai du pouvoir, c'est sur ce qui se passe ici, entre nous. Donc, pour qu'il se passe quelque chose entre nous, il faut deux choses. Il faut que moi j'apparaisse un peu, c'est-à-dire que je me dévoile, mais il faut aussi que j'amène mon patient à s'immerger pleinement dans ce moment-là, en l'explorant dans toutes les modalités. sensations corporelles, émotionnelles, pensées. Et peu à peu, en existant aussi face à lui, ce qui va m'intéresser, en fait, c'est de, non pas qu'il me déplie ce qui se passe là-bas, mais qu'il me dise ce qu'il vit là, ici, avec moi, quand il me parle de son ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe quand il m'en parle ? Et que moi, je lui dise un peu ce qui se passe pour moi. Jusqu'à ce qu'on monte en intensité dans cette rencontre. Et parfois, ça, ce qui va se passer entre nous n'a rien à voir avec, apparemment en tout cas, avec ce qui se passe là-bas dans son ailleurs. Mais on cherche Kairos, ce moment de grâce où on va, c'est-à-dire où le patient va sortir de ses habitudes. C'est-à-dire qu'on le convoque à exister. Mais exister, c'est pas si simple. C'est-à-dire qu'on cherche à créer quelque part une crise existentielle. Un moment où le patient ne peut plus faire son zinzin habituel. Son bla 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 bla. On essaye de provoquer quelque chose qui va le sortir, j'allais dire, de sa transe ordinaire. On est tous en transe ordinaire, en fait. Je suis comme ça. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et mon problème, c'est celui-là. On cherche vraiment à ouvrir une brèche à cet endroit. Pour que quelque chose de nouveau se passe. Et que nous, ensemble, on trouve une nouvelle façon d'exister. Et l'idée, c'est quelque chose de l'ordre de une métonymisation. C'est-à-dire, une métonymie, c'est... par exemple, quand on dit la couronne en Angleterre, bah, la couronne, bah, bien sûr, c'est l'objet. Mais si vous dites la couronne en Angleterre, c'est bien plus que l'objet. C'est la royauté et son pouvoir. Donc, créer de la métonymie en gestalt, c'est... On crée quelque chose de nouveau là, dans cette séance. Et ce nouveau qu'on crée ensemble, c'est la métonymie du nouveau que la personne va pouvoir créer dans sa vie. Et il y a un endroit où il faut aussi accepter de lâcher prise. Il y a un acte de foi à cet endroit-là. C'est-à-dire que ce nouveau qui là surgit entre nous, qu'on construit entre nous, eh bien, il y a cette croyance que ça parle du nouveau que la personne va mettre dans sa vie, que ce nouveau va ensemencer quelque chose dans sa vie, en fait. Vous voyez, quand je parle de nouveauté, de créer de l'existant, c'est vraiment une forme d'art dans laquelle thérapeute et patient collaborent pour créer un processus de transformation. Je ne sais pas si dans les mots que je pose, vous parvenez à saisir quelque chose de la différence essentielle de posture et de ce qui peut se passer dans une séance de gestalt.
Et déjà, le thérapeute, il est dans cette posture-là, puisqu'il va vers le nouveau. Il n'est pas vers le savoir.
Voilà, je suis au bout là de ce gros point. Dernier point qui est très rapide, parce que je ne sais pas où on en est, 1h07. Voilà, c'est bien. Hop. Ok. Donc ça, j'ai dit, c'est vraiment accompagner un processus de transformation, et à ce titre, pour moi, c'est vraiment de la création. Maintenant, est-ce que c'est du soin ? Je ne sais pas. Là, il faudrait discuter de ce qu'on met derrière le mot soin. Si je reviens sur la question de la pathologie, nous ne soignons pas en gestalt-thérapie, posture de champ, nous ne soignons pas une pathologie. C'est clair. Nous accompagnons une personne, et nous accompagnons une personne dans ce processus de création du vivant et de l'existant. Donc on ne parle pas de soin. Néanmoins, les fondateurs ont quand même mis le mot thérapie. Donc, voilà. Et peut-être, pour terminer, j'ai envie de vous dire un autre texte de Sylvie Choc de Nos Formes sur beauté et psychothérapie, enfin, gestalt-thérapie. Est-ce que ça vous va ?
Oui.
Ouais. La beauté se donne à voir dans la dimension éthique, poétique, spirituelle de l'humain. Mais plus simplement, la beauté du processus de contact avec l'environnement est la mesure de la santé. Elle se manifeste dans la force de l'énergie qui circule, sa fluidité, le rythme et la grâce des formes émergentes, leur caractère unique et non reproductible. Est beau ce qui témoigne de la vitalité de la source et de l'avènement de ce qui cherchait sa voie. En psychothérapie, la beauté oriente ma pratique. Je la vis comme un indicateur de santé. Et je définis à l'inverse la pathologie comme la marque du chaos ou de la rigidité, ce qui signifie la perte d'accès à la beauté. Chaque personne peut être belle sous mon regard. Sa beauté m'est donnée de façon directe et implicite au détour du processus. Ma résonance à ces instants d'émergence, qui sont des événements non reproductibles, m'oriente pour soutenir les ressources de la personne et la quête de sa vérité. Témoigne de la beauté des manifestations comme une voix bien timbrée et modulée, un geste souple et ample résultant d'un engagement de tout le corps, une émotion qui émerge dans toute sa délicatesse ou avec une intensité triomphante, la justesse d'une parole délivrée, la touchante maladresse de celui qui se laisse voir sans chercher à paraître, la profondeur d'un regard, un silence dense et partagé, le corps en expansion à l'énoncé d'une vérité incontournable de l'être. Un instant de pudique tendresse, une obscurité qui se déchire et qui donne comme un supplément d'âme, un visage qui irradie après la traversée d'un moment très souffrant. Car la beauté n'est pas forcément du côté de la joie, elle est aussi du côté de l'acceptation et de la transformation de la souffrance. À l'inverse de cette ouverture, et c'est quelque chose qui nous est nécessaire, nous vivons avec une part d'autocontrôle, nous restreignons notre vitalité pour correspondre aux exigences de l'environnement, nous n'exposons que la part de nous-mêmes qui semble acceptable aux yeux des autres, nous réduisons notre champ d'expérience pour nous focaliser sur un problème précis et être performants. Nous fonctionnons. Par contre, nous nous perdons et la beauté n'a plus de place lorsque nous restreignons de façon chronique et non consciente, nous nous anesthésions, que nous nous figeons dans notre évolution, nous sommes sans désir et lorsque nous sommes de plus en plus coupés des autres et de notre environnement. Ceci est le versant dépressif. D'un autre côté, nos états émotionnels et notre sensibilité peuvent s'intensifier de manière chaotique de telle sorte que nous perdons nos facultés à nous raisonner, à appréhender clairement les situations ou à nous laisser aller en toute sécurité. Nous sommes ici sur le versant anxieux. Ce n'est pas la souffrance qui est pathologique, et d'ailleurs elle fait partie de la vie. C'est son enfouissement, sa fixation, notre déni ou notre incapacité à l'adoucir pour la rendre supportable, à la transformer, à l'utiliser comme un élément dans notre parcours de vie. Il y a une charge d'énergie énorme dans la fixation sur la souffrance. Libérée, elle est disponible pour s'engager dans l'existence depuis nos ressources et pour devenir présent à soi, à l'autre et à la situation, avec le pouvoir de les transformer tout en se laissant transformer en retour et ainsi pour créer la beauté. Voilà.
Et bien maintenant, c'est à vous.